Bonjour à tous, ici Yacine, vous écoutez Studio Artichaut sur Radio Campus Paris 93.9. Donc on est ici au Mont-en-l'Air, la librairie parisienne située 2 rue de la Mare, c'est dans le 20e, pour ceux qui ne connaissent pas, du côté de Ménilmontant. Cinquième épisode d'une série de rencontres dédiées au design graphique, donc dans le cadre d'une résidence portée par la région Île-de-France. Merci à eux. Mais on est là aussi dans le cadre du Festival Fanzine, donc qui a lieu du 15 au 25 juin 2017. Voilà, c'est en ce moment. Et donc aujourd'hui, une émission qui est dédiée à la création typographique en France. Et en ce moment, on sent une certaine effervescence dans la scène française, peut-être liée à l'arrivée de nouvelles générations de dessinateurs de caractères. On voit qu'il y a pas mal de projets à droite et à gauche, et puis les typographies prolifèrent. Et donc, pour parler de tout ça, on est en compagnie de typographes triés sur le volet. Donc tout d'abord, il y a Benoît Baudouin. Bonjour Benoît.
Bonjour Yacine.
Donc graphiste, enseignant et typographe. Donc toi, tu développes un style plutôt osé fantaisiste. On va en parler. Et à côté, trois membres de Velvetin, ou VTF pour Velvetin Type Foundry, parce qu'ils parlent anglais aussi. Il y a donc Jérémy Land. Bonjour.
Bonjour.
Il y a Raphaël Bastide.
Bonjour.
Et Lucas Lebihan.
Bonjour. Bonjour.
Voilà. Donc VTF, c'est une fonderie qui a été créée en 2010. Alors pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une fonderie, c'est lié à l'époque de l'industrie où on fondait en plomb les caractères. Donc ça s'appelle toujours comme ça, même si maintenant, enfin je ne sais pas, peut-être que vous fondez en plomb certains caractères et que je ne suis pas au courant. Mais bon, maintenant le nom est resté et on appelle ça une fonderie. Voilà. Donc vous proposez des polices qui sont gratuites et libres de droit. Ça veut dire qu'on peut les télécharger gratuitement, qu'on peut les modifier et les redistribuer. Bref, c'est assez libre. Ce qui est important à dire aussi, c'est que Velvetin donc, est associé au Festival Fanzine cette année. Donc, c'est la fonderie qui fournit officiellement le Festival Fanzine. Voilà, donc les typos qui sont utilisés dans le cadre de la com du festival, ça vient de chez eux. Voilà, on est très contents d'ailleurs. Et donc, on s'est dit que ce serait pas mal d'intégrer cette rencontre, en fait, qui était prévue avant, mais on s'est dit que ce serait pas mal du coup de mettre ça dans le programme du salon, voilà. Et puis que c'était pas mal aussi de parler de typographie dans le cadre d'un salon du fanzine aussi. Alors, première question qui s'adresse un peu à tout le monde, mais comment vous expliquez cette effervescence qu'il peut y avoir dans la création typographique en France et peut-être même à l'échelle internationale aussi ?
Ça s'explique par plusieurs facteurs, selon moi. D'abord, des outils de plus en plus faciles à utiliser, quand même, comparé au fait de graver des poinçons et de fondre du plomb. Aujourd'hui, ouvrir un logiciel de dessin typographique, sachant qu'il y en a même plusieurs, donc il y a une offre qui commence à être pléthorique, c'est beaucoup plus facile. Il y a de plus en plus de formations, de médiatisation de la typographie. Il y a de plus en plus de graphistes, donc de plus en plus de demandes aussi, et voilà pour commencer.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de lassitude plus rapide autour de la typographie, c'est-à-dire les graphistes consomment, comme il y a une certaine production et qu'on voit qu'on peut trouver facilement des typographies, on a tendance à vouloir renouveler son stock de typos souvent?
Ah, c'est sûr, là la mode en typographie, il y a un turnover énorme en ce moment. Et ça force les fonderies à sortir plus vite. Ça encourage aussi les gens à sortir peut-être plus des choses en les laissant moins traîner dans les tiroirs, de peur que ça soit démodé d'ici 2 ans. Et voilà. Et en France, peut-être qu'on peut se dire aussi qu'il y a une sorte de dédramatisation de la sortie de typographie. Quand à une époque, une typo en France, il y en avait 3 qui sortaient par an, ça faisait grand bruit et tout le monde regardait. Maintenant, on est à un rythme beaucoup plus rapide et du coup, les gens sont peut-être plus à l'aise. Il y a moins d'embargo sur le fait de sortir une typographie. Les gens se disent moins que tout le reste de la profession va les regarder, les juger.
Et les gens sont plus décomplexés à l'idée de tout simplement de sortir une typo, et même si elle n'est pas parfaite, si elle n'est pas hyper au point, c'est pas grave parce qu'ils sont pas en concurrence avec les 3 sorties de l'année, donc.
J'ajouterais aussi que il y a aussi cette démocratisation est aussi due, à mon avis, à la documentation qu'il y a autour de la typographie. Les gens savent plus ce que c'est. Je pense que c'est dû aux nombreux ouvrages à ce sujet, peut-être des vidéos YouTube ou même des chaînes entières, des blogs qu'ont vu le jour dans les années 2000 et qui ont été remplacés après par des choses plus grandes, mais à plus d'envergure. Mais les gens et pas forcément seulement les professionnels graphistes, mais donc utilisateurs, mais plus largement, les gens savent ce que c'est qu'un caractère typographique, ont une idée de comment c'est fait, là, le travail que ça demande, etc.
C'est vrai que récemment, il y a eu des petits programmes sur certaines typos, là, les Safari typos sur Arte Créative, et puis encore avant, c'était Sacré Caractère, je crois, hein, quelque chose qui s'appelait comme ça, voilà, qui faisait un peu de la vulgarisation de la typo, j'imagine que ça aide. Et justement, j'aimerais vous poser une question, alors je ne sais pas ce que vous allez répondre, mais je me la pose aussi, c'est est-ce que vous vous sentez un petit peu comme héritier d'une tradition, d'une histoire typographique qu'il peut y avoir en France ? Est-ce qu'il y a des gens en France qui vous ont marqué et qui font partie d'une sorte de patrimoine dont vous vous sentez les héritiers, effectivement ? Benoît, peut-être, réponse à cette question. Est-ce qu'il y a des typographes français en particulier qui t'ont marqué et dont tu pourrais te réclamer, en fait ?
Non, clairement non. En fait, je suis admiratif de beaucoup de typographes, mais je me sens pas du tout héritier d'aucun d'eux. Je les regarde, que ce soit des typographes du passé ou des typographes contemporains. Mais par contre, non, je me réclame pas d'eux. Je suis admiratif, mais pas héritier.
Et concernant Velvetine, parce que il y a eu aussi des fonderies assez connues en France, qui ont fait des choses plutôt bien. Est-ce que il peut y avoir des ponts entre ce qui a été fait par le passé et ce que vous faites maintenant ? Est-ce que vous pouvez vous sentir proche de certaines démarches présentes ou passées d'ailleurs ? Je sens que c'est une question difficile.
Ouais, c'est une question difficile. Peut-être nous, avec Jérémy, par notre formation, on a peut-être été un peu au contact d'une forme un peu plus classique de la typographie. Parce qu'on vient tous les deux de l'école Estienne. Et donc, on a un peu cet héritage-là, mais je pense qu'on le remet pas mal en question. Et qu'on n'a pas... Ouais, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui. Ce serait quoi la part qui nous reste de ça, mais...
Il y a une culture typographique française, c'est sûr, dont on est héritier. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vais plus se dire qu'on s'inscrit dans un paysage français qui, c'est assez exceptionnel, est assez bon esprit, c'est-à-dire qu'il y a une famille typographique française, j'ai l'impression, qui échange et dans une certaine mesure et qui parle. Et nous, on fait partie de ce paysage et du coup, on peut, ce qui n'était pas forcément évident à la base, mais en tout cas, on peut échanger, on peut parler avec les fonderies commerciales qui existent aujourd'hui, dont je vois certains des membres dans la salle. Voilà, c'est...
Ça te met la pression qu'il soit dans la salle ?
Non, pas du tout. Parce que justement si on est... J'ai l'impression qu'on a quitté l'époque, enfin en tout cas un peu, où on pouvait être peut-être trop plus juge les créations des uns des autres, en se sentant plus menacé par ce que pouvaient faire les autres. Maintenant, il y a
une émulation, tu dirais ?
Une émulation, ouais. Une belle émulation, ouais.
D'accord, parce qu'il y a quoi ? Il y a environ une dizaine de fonderies en France, plus plein de créateurs qui vendent leur typo eux-mêmes sur leur site, c'est ça ?
Oui, et je pense que personne se plaindra aujourd'hui d'une nouvelle fonderie qui ouvre et d'une nouvelle personne qui sortira des typos sur son site.
D'accord. J'aimerais vous poser la question tour à tour. D'où vient l'envie de faire de la typo et pourquoi on a envie de se confronter à l'infini, au même motif, à savoir ces mêmes 26 lettres, etc. Donc peut-être Benoît qui peut commencer par répondre à cette question.
D'accord, ça va être compliqué. Je vais essayer de réunir toutes mes idées sans me perdre. Alors déjà, je pense qu'en fait, c'était l'inconnu. J'ai pas du tout de formation en dessin de caractère, donc il y avait une sorte d'attirance du mystère. Pourquoi dessiner une typo alors que finalement il y en a déjà tellement ? Pourquoi en choisir une plus qu'une autre ? Et donc j'ai voulu essayer plutôt que de choisir des typos, plutôt je préférais essayer de les dessiner. Et puis après, il me semble qu'il y a un jeu, en fait. C'est vraiment un jeu. C'est de se dire que forcément, il y a cette lisibilité, cette histoire d'architecture de chacune des lettres qui va nous contraindre. Et dans cette contrainte, on va forcément vouloir y échapper, amener quelque chose de nouveau ou quelque chose de, en lien avec une envie d'expression ou un support et on va y injecter quelque chose. Et c'est comment on va pouvoir injecter ce quelque chose en plus dans cette contrainte assez forte. Et ça donne en fait vraiment un terrain de jeu, en fait. Un terrain de jeu avec des règles. Et en même temps, on a envie de casser un peu les règles, de jouer avec ces règles.
Pour toi, le fait de mettre de la personnalité dans les typos que tu crées, c'est quelque chose d'assez important. Tu n'essayes pas spécialement d'effacer le créateur derrière la lettre?
Ah non, c'est pas que je cherche à être présent absolument, c'est que je cherche absolument pas à m'effacer, non. Mais j'ai l'impression qu'on en est tous à un certain degré un petit peu là. Dessiner une typo uniquement pour sa lisibilité, ce serait assez absurde, il me semble. Les typos lisibles, elles existent, elles existeront toujours. Et d'ailleurs, les plus lisibles, c'est celles qui sont le plus ancrées et donc les plus vues et donc les plus anciennes, j'ai l'impression. Donc forcément, on a envie d'injecter quelque chose de nouveau à chaque caractère. Et peut-être que j'y vais avec un peu plus de brutalité ou d'enthousiasme que d'autres, j'en sais rien, ou moins de raffinement, ou tout chacun pourra décider, mais oui, j'y vais de façon assez franche.
Lucas, tu peux répondre donc à cette question. Le goût de la typo, il vient comment ?
Moi, au départ, j'ai une formation plutôt scientifique. Et donc, je suis arrivé au design, enfin, pas au design graphique, avec cette espèce de fond de connaissances un peu technique, tout ça. Et la typographie m'a intéressé au début un peu pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'était presque une approche, je sais pas, presque d'ingénieur du graphisme. Il y a vraiment ce côté dessiner des lignes, puis les courbes de Bézier, tout ça, qui sont plutôt des technologies qui viennent du monde de l'ingénierie. Et ça m'a intéressé au début. Et à l'école Estienne, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait vraiment ce côté artisanat, enfin presque l'artisanat d'art, quoi, finalement. Et ça, c'est un truc qui était assez intéressant quand on le compare au design graphique, qui a peut-être un peu moins ce côté exigeant dans la qualité, dans le dessin des formes, etc. Où là, on nous a vraiment appris. Enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas, à aller chercher vraiment des détails, etc. dans le dessin.
Jérémy, tu peux répondre aussi, puisque toi, tu as suivi la même formation donc à l'école Estienne.
Ouais, mais mon envie, elle vient d'avant, justement, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Moi, c'est juste que la typo est un outil du graphiste. Et en tant que graphiste, parce que je suis graphiste, j'étais graphiste en tout cas avant d'être créateur de caractères, et j'ai voulu un peu toucher et comprendre tous mes outils. Et ce qui m'a amené à... je dessinais déjà, mais à faire de la photo notamment, dessiner encore plus, tester les techniques d'impression et faire de la typographie. Et la typographie est restée plus, même si je me retrouve toujours à aller toucher tous les outils et tous les médiums parce que j'essaie d'être maître de tous les composants du graphisme. Et voilà, et c'est ça qui m'y a amené. Qu'est-ce qui a fait que la typo m'a capté plus que le reste ? Je ne saurais pas le dire.
D'accord. Raphaël ?
Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est à la limite tout ce qui n'est pas le dessin, l'aspect peut-être expérimental du caractère typographique et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire sa distribution, la façon dont il est présenté en tant qu'objet de design. Les licences, les modèles économiques qui l'entourent, les événements comme celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai ma place, que j'ai une place, que VTF m'intéresse, parce que en fait, ça décuple vraiment toutes ces opportunités d'expérimentation. Et donc les licences libres pour Velveteen Type Foundry, c'est vraiment très important, parce que ça, c'est un champ d'expérience entier qui ne s'arrête pas aux frontières du collectif, mais qui va aussi sur le web ou comme ce soir avec des gens qui sont intéressés par ça. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est tout ce qui n'est pas a priori le dessin, même si a fortiori au bout d'un moment je commence à, enfin je fais du dessin typographique, mais je me considère plus comme un expérimenteur en fait de la matière typographique plus qu'autre chose, quoi.
D'accord, ce qui t'intéresse, donc, c'est par exemple comment la typo va s'incarner sur Internet, par exemple, comment elle va être distribuée. Bah, un des trucs qui est important chez Velvetine, c'est que c'est gratuit. Enfin, n'importe qui peut télécharger les typos, les modifier et les redistribuer derrière. Ça, c'est quelque chose qui vient de la culture du logiciel libre. Donc ça, c'est essentiel dans la démarche de Velvetine, non ?
Oui, ça c'est important de le soulever. C'est, on a un modèle économique qui est, on peut dire, inexistant presque. On est vraiment, on fait, on, enfin, je veux dire, c'est.
Vous n'êtes pas là pour l'argent, ça c'est clair.
On n'est pas là pour l'argent. et le fait qu'on ne parle pas d'argent entre nous ou très très peu nous permet de vraiment avoir une grosse liberté d'expérimentation. Et de nous pencher sur des questions de comment présenter. En ligne, par exemple, les web spécimens, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement et je pense qu'il intéresse beaucoup de gens aussi ici. Donc, comment présenter sur un site web un spécimen typographique ? Comment
je précise pour les auditeurs qui ne sont pas à même de comprendre ce que c'est qu'un spécimen, que c'est une manière de présenter la typographie initialement plutôt pour la vendre. C'était des catalogues qu'on envoyait aux clients et les clients ils jugeaient un petit peu sur pièce ce qu'on pouvait faire avec la typo et si elle était valable ou pas.
Voilà, et même si on ne la vend pas, il faut la présenter quand même. Donc on doit aussi... Et puis c'est vraiment très amusant de...
C'est un jeu, le spécimen typographique.
Voilà, c'est un jeu de web design, du graphisme. De web design, de typographie, de... Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant, ça nous intéresse beaucoup. Et aussi comment faire de la pédagogie, que ce soit pour la typographie, donc le dessin, et aussi pour les licences, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et une fonderie commerciale, etc.
Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les typos de Velvetine, par exemple ?
Pas grand-chose.
D'accord.
Non, on n'a pas le droit de les prendre, de les modifier et de les revendre. Même si, mais en fait, il faut les vendre avec la même licence. Quelqu'un n'a pas le droit de prendre une typo, de la modifier et ensuite de décider qu'elle n'est plus libre. Les typos Velvetine seront toujours libres. Et personne ne peut les rendre propriétaires derrière. C'est bien la seule interdiction que j'ai en tête. Voilà.
D'accord. On ne peut pas gagner d'argent avec ces typos.
On peut gagner de l'argent. Quelqu'un peut décider, même pourrait décider qu'il va être plus malin que nous et qu'il va les vendre. Le truc, c'est que nous, vu qu'elles sont disponibles sur notre site gratuitement, c'est un pari qui est périlleux.
Ça ne sera pas votre copain, en tout cas.
Mais on peut tout à fait embarquer nos typos dans un pack vendu. Donc, par extension, on vend la typo, mais il faut du travail de communication.
Ça vous intéresserait que vos typos elles soient dans des systèmes d'exploitation ? Enfin, ça ne va pas trop avec la logique du logiciel libre, mais... ou alors ça soit des systèmes d'exploitation peut-être libres, justement, enfin, ou dans des...
Oui,
liés à des logiciels qui sont vendus.
Oui, après, on ne fait pas des typos d'interface, ou du moins pas pour l'instant, mais oui, idéalement, ça serait magnifique. Moi, je serais ravi d'avoir sur mon Linux une typo Velvetine... bien sûr, mais on est déjà très content de les voir partout dès qu'on se balade dans des lycées, dans des écoles d'art ou dans la rue ou dans des fanzines. Par exemple, au Fanzine Festival, il y en a plein partout. On en voit, on est content à chaque fois parce que ça voyage beaucoup en fait.
D'accord. Et un des éléments aussi qui est important, du coup, c'est que vous êtes souvent plusieurs à signer une typographie quand elle apparaît sur le site. Il y en a qui sont signés avec une seule personne, mais souvent, il y a deux, voire trois personnes qui travaillent. C'est une partie importante de la dimension collective du travail chez Velvetine. Je sais que vous discutez tout le temps en permanence de ce qui doit sortir chez Velvetine, de ce qui doit être fait, de comment les choses sont, etc. Enfin, il y a vraiment des échanges en permanence, du débat en permanence chez vous.
Ouais. Alors, Velvetine est vraiment collaboratif dans sa structure, dans son fonctionnement. Par contre, dans le dessin des fontes, je vais être honnête, jusqu'alors, c'était un peu un échec, la collaboration. On a très peu... tu dis que la plupart des typos sont à plusieurs auteurs. Finalement, proportionnellement, c'est peu. Mais là, de plus en plus, on s'y met vraiment. Et surtout, nos typos sont récupérés par d'autres et sont modifiés. Et on va en sortir ces versions modifiées. Donc, en fait, ça devient une réalité, là, cette année, de manière très importante. Ce qui fait qu'effectivement, ça va prendre le dessus, là, sur les typos dessinés de manière individuelle. Mais ça a mis du temps à se mettre en place.
Ouais, un des enjeux, c'est que, effectivement, des gens de l'extérieur remodifient vos typos et fassent quelque chose de bien, en fait. Ça, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, je dirais.
Modifient, voire étendent le glyph set, enfin, le nombre de lettres disponibles dans la typographie. Là, on a l'exemple de gens qui vont... ajouter du grec, ajouter du cyrillique, tout ça. Et ça, ouais. Ils le font.
Bientôt dans les fanzines grecques, on pourra avoir du velvétine.
Pour avoir du...
c'est quand même très compliqué, je pense, d'arriver sur un projet qui existe déjà et de se l'approprier, de conserver l'identité du projet typographique et de le continuer. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc,
on peut le continuer sans garder l'identité, non ? On n'est pas obligé.
Ah, à ce moment-là, c'est une modification. Oui, alors du coup, la plupart des gens vont avoir tendance à refaire peut-être un projet du début. À part si c'est une volonté qui fait partie du projet de design à l'origine, c'est quand même pas mal de travail, je sais pas.
Ouais, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ont toujours plus tendance à bosser sur leur projet que bosser sur ton projet à toi, même s'il est libre.
D'accord.
Du coup, pour que quelqu'un s'approprie un projet, même à mauvais escient, faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de facteurs qui soient réunis. Donc... la modification pour en faire son propre objet, les gens ils vont plutôt dessiner de base leur propre typo. Voilà.
D'accord. Et toi, alors, donc, Benoît, tu travailles tout seul.
Oui.
Donc, des fois, tu n'as pas envie de travailler avec d'autres gens, d'avoir peut-être plus d'échanges
Non. Si, j'aimerais bien avoir un assistant pour. parce que c'est vrai que c'est très très long de. Enfin, une fois qu'on a l'idée, qu'on a l'atmosphère de ce qu'on veut faire, le pousser jusqu'au bout, c'est parfois assez long et on voudrait que ça... Même s'il y a des étapes assez intéressantes à faire soi-même, on voudrait que ça aille plus vite. Mais sinon, non, j'aime bien travailler tout seul. Je travaille parfois avec d'autres personnes quand même parce qu'il y a un échange avec un graphiste, par exemple, qui va avoir des exigences au niveau d'une commande ou au niveau du... Mais sinon, oui, c'est plutôt un travail, une fois qu'on est d'accord sur l'idée, c'est un travail tout seul.
Tu peux m'expliquer, c'est quoi le point de départ d'une typo, par exemple ? C'est une intention formelle ou c'est par rapport à une commande ? Il y a un critère, un cahier des charges ? Les deux, j'imagine, mais...
C'est jamais vraiment la même chose. Maintenant, je sais que j'aime bien partir d'une forme. Mais ça peut être partir d'une forme ou partir d'une idée, d'une idée de lettres qui vont se toucher d'une certaine manière, ou bien une idée de juste une forme, un accident peut-être. Et souvent aussi, à partir du moment où c'est plus le premier dessin de lettrage, il y a aussi un travail sur une frustration qu'on a pu avoir sur un dessin précédent. Sur un travail précédent où en fait on l'a dirigé volontairement dans une direction et on a forcément dû écarter un certain nombre de possibilités qui étaient sans doute des bonnes pistes mais qui ne correspondaient pas au projet sur lequel on travaillait. Et donc si j'avais 10 000 assistants, je pense qu'on pourrait sortir beaucoup plus de fontes. Mais je suis pas le seul dans ce cas, c'est que ça demande tellement de travail que forcément ça génère des frustrations. Et ces frustrations sont source de nouvelles envies, entre autres.
On a un petit peu parlé avant en préparant cette émission et tu m'as parlé d'un truc qui m'a intéressé, c'est la tension qu'il peut y avoir entre ce que tu appelles lisible et expressif, c'est-à-dire le curseur que tu places entre un petit peu les deux, parce qu'on sait une typo, il faut qu'elle soit lisible, mais en même temps, toi, tu as envie toujours d'aller dans quelque chose d'un peu déformé, on va dire, c'est quelque chose qui t'intéresse, la déformation en particulier, ou le côté un peu bizarroïde, pas tout à fait normé, et en même temps, il y a cette tension, puisqu'il faut que ça reste lisible, donc tu travailles sur cette chose-là.
Oui, alors je sais pas, je pense que je suis loin d'être le seul à travailler là-dessus, mais
bien sûr,
forcément, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée de lisibilité qui est quasiment essentielle, mais en fait, elle est toute relative aussi, puisque chacun va, selon l'utilisation et selon le spectateur, la lisibilité va être totalement différente. Je vais prendre un exemple. Ce qui me plairait bien, c'est que justement une lettre isolée ne ressemble pas à la lettre en question et qu'une fois associée à d'autres lettres, le mot se forme. Donc essayer de trouver quelque chose qui fasse qu'on soit presque dans une réunion de signes abstraits qui réunit, fasse presque une typo. Maintenant, je dis ça parce que j'ai un de mes caractères sous les yeux. Mais c'est pas vrai à chaque, c'est pas vrai à chaque dessin. Mais je pense que j'essaie de d'augmenter le l'intersection qu'il peut y avoir entre le moment où c'est lisible et le moment où c'est plus de l'ordre de la tentative expérimentale, du jeu graphique. Et il y a un moment où il y a une réunion de ces... Je fais des mathématiques avant. Donc il y a une réunion de ces deux ensembles et j'essaie d'agrandir cette zone, en fait, de la rendre un peu plus élastique. Ouais.
Oui, donc on l'a compris, c'est cette logique de combinatoire qui t'intéresse beaucoup. D'ailleurs, souvent, dans certaines typos que tu as pu créer, il y a souvent beaucoup de variantes d'une même lettre.
Souvent, des fois, ouais. Mais je suis un peu perdu là.
Bah, c'est-à-dire que, par exemple, je prends la typo zigzag, il y a plusieurs A, il y a plusieurs B, et donc tu n'as pas envie de choisir une seule lettre, tu te dis les deux sont intéressantes, donc c'est cette combinatoire qui crée la typo, c'est-à-dire c'est pas juste chaque lettre individuellement ou...
Oui, non.
J'ai l'impression qu'il y a un intérêt particulier pour le fait de combiner les lettres, enfin, ça fait partie de l'exercice de la typo de toute façon.
Oui, mais... ça fait partie de l'exercice de la typo et en fait, non, en général, j'essaie de vraiment d'écarter les lettres qui me plaisent pas ou qui me plaisent pas. Alors quand je dis me plaisent pas, ça peut être me plaisent pas pour une question esthétique ou de lisibilité ou de la direction que prend l'ensemble de l'alphabet. Mais non, la zigzag, c'était complètement différent. C'était justement l'intention de départ d'avoir plusieurs possibilités pour l'utilisateur et d'avoir un espèce de set de 26 caractères capital assez normal et de pouvoir en fait choisir des lettres qui étaient justement un peu qui créaient un accident en fait dans la lecture tout en restant lisible mais qui interpellaient par le fait qu'elles soient pas finalement dans le même style, dans le même de la même facture.
D'accord. Par rapport à Velvetine, c'est quoi les critères pour qu'une typo puisse rentrer dans le catalogue de Velvetine ?
Alors, c'est une bonne question qu'on se pose, qu'on rafraîchit à peu près tous les jours, je pense, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ce sont des décisions qu'on prend ensemble. Le collectif... c'est quoi ? C'est 8 personnes environ ? Donc voilà, on papote et puis au bout d'un moment, on se met d'accord sur... on vote parfois, quand c'est pas clair. Et puis on dit, oui, non. Généralement, il y a toujours les mêmes arguments qui viennent. Il faut que ça soit un projet assez intéressant graphiquement. Il faut qu'il contraste avec les précédents projets. Bien sûr, la licence libre, ça c'est le premier critère. Il faut que ce soit...
Il faut que la personne ait envie que sa typo soit gratuite.
Gratuite et sous licence libre. Ouais, voilà. Et il faut que le projet nous intéresse, il faut que le glyph set, donc le nombre de caractères dessinés, soit assez important. On a une norme interne de je ne sais plus combien. On fait attention à ça en tout cas. Et puis après, on discute avec la personne en question. Mais globalement, c'est au feeling et il faut que ce soit. Par exemple, là, on s'intéresse beaucoup à des caractères qui vont se rapprocher peut-être d'un caractère de labeur, donc des caractères avec lesquels on peut lire et écrire. Donc, aidez-moi, je me perds.
Comme dans un magazine ou dans un livre, ouais, pour lire
pour du texte courant.
Voilà, pour du texte courant. Ouais. Merci Jérémy.
Traduction de texte de labeur, ouais.
Et donc ça, c'est très difficile à faire, surtout pour un collectif, parce qu'il faut que quelqu'un se décide à faire ça, donc prendre beaucoup de temps et soit intéressé pour ne pas le commercialiser. Mais c'est tout à fait envisageable. Moi, je suis sûr que dans les prochains mois, on va pouvoir avoir des propositions dans ce sens-là. Mais aussi des caractères qui vont être complètement fous, très très fins, très très épais, avec plusieurs graisses, comme on l'a dit tout à l'heure, des collaborations pour étendre des caractères existants. Voilà.
Ouais, on aime bien aussi les belles histoires. Et là, dans les prochains caractères qu'on va sortir, ceux qu'on a déjà sortis, à chaque fois, de plus en plus, il y a une histoire à raconter sur le caractère, que ça soit parce qu'il est issu d'une commande... d'une collaboration, qu'il a été créé dans un contexte particulier. Et ça, ça nous intéresse. Et aussi, on est assez intéressé par les caractères qui sont commercialement totalement handicapés et du coup qui n'ont leur place que chez VTF. Mmh. Ça, c'est un critère qui nous vient. Parfois, on est là, ah, c'est une super typo et elle n'a pas sa place, elle aurait du mal à vivre ailleurs. Du coup, on la sort et potentiellement, personne ne la télécharge chez nous, mais c'est vraiment le seul endroit où elle pouvait exister et quand elle est utilisée, ça fait des choses bien.
On aime bien les caractères manifestes qui racontent quelque chose, qui sont engagés dans un sens et qui sont et qui se voilà. C'est ça, ça nous intéresse bien.
Tu parles de belles histoires. Tu peux citer un exemple, une typo, quelque chose qui a une histoire particulière.
Alors, je peux prendre plusieurs exemples. Déjà, on parlait de modèle économique et c'est vrai que Velvetine depuis 7 ans est déficitaire. Mais ce n'est pas forcément un problème. Néanmoins, on essaie toujours, quand des demandes viennent, de les ramener vers les auteurs des typographies, de chaque typographie. Et récemment, on a eu plusieurs demandes pour des typographies sur mesure, mais qui peuvent être libres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas pour nous, qui existe de plus en plus dans le milieu du libre, où d'un coup, des gens nous payent, mais ne veulent pas la propriété exclusive de ce travail de commande. Ce qui fait qu'on sort des travaux de commande, mais qui ont été rémunérés et qui, derrière, sont à disposition de tout le monde. On en a eu un cette année avec le Solid Mirage fait pour le groupe Françoise Atlas Mountains. On va en avoir... on en a au moins 3 en stock, là. Et à chaque fois, du coup, ce sont des collaborations et y a une bonne raison... Souvent, enfin, il y a une bonne raison à chaque fois pour que ça soit des caractères libres.
Oui, parce que ce serait bizarre de les commercialiser vu que c'est lié à l'identité d'une commande.
Non, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans chez les fonderies, je vais dire en gros mot traditionnel. Le fait de faire une typographie sur mesure. Le client achète les droits pour 5 ans, par exemple, et au bout de 5 ans, ces droits sont renégociés ou la typographie. Les droits peuvent revenir au créateur qui, à ce moment-là, peut décider de la commercialiser. Mais sachant que le premier client, après 5 ans d'utilisation, et parfois même il faut moins, a installé cette typographie dans le paysage graphique, quand on va utiliser cette typographie, souvent on va se dire bah, « Tiens, c'est la typographie de tel client. » Et du coup, il n'y a pas de dilution de sa marque.
Tu parlais d'un certain nombre de glyphes, donc un certain nombre de caractères par typo. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un souci d'exigence de fournir au public, aux gens qui vont télécharger vos typos, quelque chose qui soit déjà très fini et qu'il ne s'agit pas justement de faire une typo à moitié terminée, version bêta, qu'il y a cette exigence-là de fournir des outils qui soient déjà bien au point pour que les gens puissent s'en saisir.
Ouais, des outils qui fonctionnent, ça c'est sûr. Enfin, l'idée c'est quand même que les gens puissent directement prendre en main nos caractères, je pense, et au moins écrire des textes avec, etc. Après, nous, on met assez en avant aussi l'idée de sortir une typographie qui n'est pas terminée. Ça nous intéresse beaucoup, ça. C'est-à-dire de publier des fontes qui sont peut-être en cours de réalisation encore ou dont les glyphsets ne sont pas encore complets. Et donc, à ce niveau-là, on n'est pas trop, je crois, pas trop exigeant, mais...
En fait, tout ça vient de la culture du logiciel libre. Release early, release often, faites des sorties régulières et souvent, et assez tôt. Donc en fait, dès qu'on a quelque chose qui peut potentiellement plaire à un public qui va se contenter de faire des titres avec, on le sort et puis après on va faire des mises à jour sur notre site. Et puis si elle évolue pas, elle évolue pas, c'est comme ça. En fait, l'avantage c'est qu'on n'a pas de pression commerciale, donc on fait ce qu'on veut. Le public, on va dire, de designer, il se crée autour de nous, il n'existe pas a priori, donc ça aussi c'est une liberté, mais globalement c'est nous qui choisissons nos propres contraintes, notre propre qualité.
Disons qu'on aime bien quand même les typographies qui peuvent être handicapantes pour le graphiste ou l'utilisateur, qui ont des aspérités, on va dire.
Alors encore une question pour Velvetine. Vous touchez un public, j'imagine, de graphistes, de gens qui s'intéressent à la typo. Mais j'imagine qu'il y a aussi l'envie, quand on distribue des typos gratuitement, de toucher un public plus large, et on va dire le grand public, qu'ils installent un petit peu de, vos typos dans leur ordinateur et qu'ils essayent de s'en servir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous arrivez à toucher ce public-là?
Je ne sais pas si on arrive à toucher ce public-là directement. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à le toucher indirectement puisque nos typos se retrouvent dans des ouvrages, dans des posters, etc. Donc, ils voient nos typos. Est-ce qu'ils les utilisent? Je ne sais pas. Il faudrait définir un peu plus précisément quel est ce public. Je pense qu'on a, quand même un public de typophiles, même des gens qui commencent à peine à s'y intéresser. Mais souvent, les gens commencent à nous connaître et donc à connaître nos typos de manière... parce qu'on fait des événements et des workshops. Donc, on commence à communiquer avec un public peut-être pas très averti lors de ces événements-là, donc des ateliers pendant lesquels on parle de signes, de typos, etc.
Il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que quand on met quelque chose en téléchargement libre sur Internet, on ne sait pas où il atterrit. Du coup, à moins de recevoir un mail de la personne qui l'utilise ou de croiser la typographie dans la rue, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et ça peut être frustrant, c'est étrange en tout cas. Mais ça crée aussi plein de bonnes surprises. Du coup, nous, ce qu'il faut bien se dire, c'est que effectivement, on va plus voir les utilisations par des graphistes parce que ce sont les graphistes qui font les images qui sont diffusées. Les amateurs font moins des images qui sont diffusées vu que c'est pas leur travail de faire des images qui vont être diffusées. Néanmoins, on sait que j'ai déjà vu moi des ouvrages, enfin des choses vraiment pas très bien mises en page, nos typos utilisés pour des rapports de stage par des non-graphistes, des ouvrages de recherche, des présentations PowerPoint dans des compagnies. Donc oui, mais c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas.
Tu sais pas s'ils l'utilisent parce qu'ils trouvent que la typo est bien ou parce qu'elle est gratuite. C'est un peu ça aussi, non?
Ouais, c'est vrai. En fait, récemment, on s'est rendu compte que nos typos sont distribués sur notre site, bien sûr, mais aussi sur plein de sites qu'on ignore. Des sites qui sont des foires à la typo gratuite. Pas forcément libre, mais gratuite. Et comme nous, la gratuité, c'est une conséquence à la licence libre, forcément, ces sites aspirent notre collection. Et les distribuent, eux, de leur côté, ce qui est tout à fait OK pour nous. Mais du coup, ça nous empêche encore plus de voir ce qu'elles deviennent, du coup, et de connaître notre public direct.
Et qu'en est-il dans le monde du libre, les gens qui ont cette culture du logiciel libre et de tout ce qui est libre, est-ce qu'eux, ils vont être justement attirés par votre démarche et avoir envie justement d'utiliser ces typos parce qu'ils savent qu'ils sont... Ça sert à leur démarche aussi.
Alors, on a assez peu de contact avec des associations de libristes logiciels, on va dire, ou même des activistes. On aimerait en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, si la quadrature du net, Framasoft, etc. nous entend, on est disponible pour tout type de collaboration. Il faut savoir que la typographie, c'est pas quelque chose, c'est pas le premier outil qui vient à l'esprit quand on pense à la communication. C'est quand même plus un graphiste qui travaille dans ces associations qui va devoir faire l'exercice de venir chercher des typos libres. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas les seuls à proposer des typos libres. Il y en a plein aujourd'hui, Google Fonts. Qui propose une énorme collection, mais aussi qu'est-ce qu'il y a ? Ben il y a d'autres fonderies libres,
hein. OSP,
Open Source Publishing, enfin qui est un collectif belge, Omnibus Type et d'autres, même des individus qui font leur propre petite fonderie de caractères libres. Donc on n'est pas les seuls. Et du coup il y a un choix très large aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Mmh.
Alors toi, Benoît, tu n'as pas trop ce problème, puisque toi, donc, tes typos, elles sont payantes, n'est-ce pas?
Oui.
Ce n'est pas une critique hein, du tout, mais justement, du coup, les gens qui te contactent pour acheter tes typos, tu sais à chaque fois à qui tu as affaire, et tu peux plus ou moins regarder ce qu'ils vont en faire. Et voilà, donc ça fait partie des choses évidemment intéressantes du travail, c'est-à-dire de voir son travail utilisé. Tu me disais au téléphone, c'est un petit peu comme si on avait participé au projet.
Alors déjà, oui, effectivement, quand la personne l'achète, forcément, il y a une curiosité. On a un nom, un mail. Donc, à moins d'être très, très pressé, sinon, je vais voir un peu qui est cette personne très, très vite, parce que j'ai pas non plus... Si je passe tout mon temps à ça, c'est un peu... Enfin, c'est pas une perte de temps, mais...
Ça serait bizarre aussi.
J'ai d'autres choses à faire, quoi, que de fliquer et de faire le curieux et le voyeur... Mais sinon, par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est après, c'est d'avoir des retours de personnes qui l'ont utilisé. D'ailleurs, je partage ça sur un blog. Et c'est pour mon propre plaisir d'abord. C'est parce que c'est vrai qu'il y a cette impression d'avoir un peu participé au projet. Et je ne suis pas quelqu'un de très collectif dans mon travail. Et du coup, c'est une façon peut-être de compenser tout ça, quoi. Et oui, il y a une grande satisfaction en général de voir un peu comment les gens s'approprient mon travail, mais ce n'est pas que mon travail, puisque de toute façon, le travail, enfin, si c'est mon travail, mais il est fait pour être utilisé par d'autres, et pas maltraité, mais traité pas forcément comme je l'attendais. Donc il y a une sorte de rencontre, de regard. Il y a moi, comment j'ai dessiné la typo, comment je l'ai vue. Et après, comment chaque utilisateur l'aperçoit et du coup, comment il va l'utiliser. Et c'est plein de surprises, parfois moins bonnes, mais de manière générale, assez agréables.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une sorte de profil type ou différents profils de gens qui s'intéressent à ton travail? Est-ce que tu sens que ça va être des gens proches de ton état d'esprit ou des gens qui voient justement complètement autre chose dans ce que tu as fait?
Oui, il y a des gens qui sont dans mon état d'esprit, c'est sûr. Il y a des gens qui suivent mon travail et ça me fait très plaisir, qui achètent plusieurs de mes typos, qui les utilisent souvent ou bien, en tout cas, ou souvent bien, enfin les deux. et puis, il y a tout aussi, il y a une autre part d'acheteurs que je ne connais pas trop, donc que j'apprends à connaître au fur et à mesure, si jamais ils m'envoient leur travail ou que quelqu'un d'autre qui suit un peu mon travail, m'envoie un lien pour me dire, tiens, lui, il a utilisé cette typo.
Est-ce que tu peux parler aussi de la manière dont tu présentes tes typos, la logique de spécimen? C'est quelque chose qui t'intéresse forcément. Enfin, quand on crée des typos, on est un petit peu obligé de faire des spécimens. Et donc là, toi, tu as des enjeux commerciaux, puisqu'il faut que tu présentes ta typo de telle manière qu'elle donne envie aux gens de débourser de l'argent.
Oui. Alors, à mon avis, je suis très mauvais à ce jeu-là parce que je suis d'abord graphiste, ou peut-être que maintenant, je ne suis plus d'abord graphiste, mais peu importe.
À la base, tu es graphiste.
À la base, je suis graphiste et en fait, je ne peux pas m'empêcher de jouer avec et de l'utiliser exactement ce pour quoi elle n'a pas été dessinée, d'essayer de l'utiliser un peu différemment. Et puis souvent, il y a une proximité en termes de temps qui fait que je manque parfois aussi un peu de recul pour l'utiliser. Donc, tout seul, et puis une envie de la diffuser. Une fois qu'elle est faite, c'était tellement long à faire que ça commence à brûler un peu les doigts. On a envie de la montrer. Donc, les spécimens ne sont pas du tout bâclés, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, ils sont faits sans recul, tout simplement.
Il y a une énergie, en fait, c'est ça qu'on peut voir, c'est-à-dire que...
Et une envie de les tester, de les utiliser, et cette envie, du fait qu'elle manque de recul, c'est une envie assez personnelle. Donc ils sont à la fois bons et mauvais, ils sont bons parce qu'ils représentent bien ma personne, ils sont mauvais parce que commercialement parlant, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, je pense.
Tu penses que tu pourrais faire des spécimens qui aideraient à mieux vendre la typo?
Ah oui, bien sûr, il faudrait que je délègue ça, je pense, que je demande à des graphistes de travailler avec la typo pour faire un bel objet ou un objet tout court, que ce soit un poster ou une petite édition ou des cartes, mais que ce soit quelqu'un d'autre, je pense, ou bien que j'attende 6 mois avant de sortir le spécimen. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça demandait à quelqu'un d'autre de faire le spécimen. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les utilisations des graphites. C'est assez agréable quand la typo est toute fraîche de voir comment quelqu'un va l'interpréter. Et puis souvent, c'est un ami en qui on a confiance. Donc c'est bien, quoi. Avec qui on peut aussi un peu parler.
D'accord, si ça te plaît pas, tu peux lui dire ouais, là.
Ouais, après, j'essaie de laisser les personnes assez libres. Je les choisis parce que j'aime bien ce qu'ils font, donc je préfère pas. Et puis, j'aime pas qu'on vienne m'embêter quand je fais du graphisme. J'aime bien qu'on me laisse ma dose de liberté. Donc, j'ai pas envie de me retrouver dans la. Mais bon, en discutant de façon sereine, on arrive à faire passer certains messages quand même.
Et est-ce que le... Parce que des fois, tu réponds à des commandes, donc tu crées des typos exprès par rapport à des commandes. Est-ce que la commande typographique est très différente de la commande d'un boulot de graphisme, un poster ou je ne sais pas quoi? Alors là, tu dois créer une typo, donc les contraintes ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une plus grande liberté? Parce qu'il y a toujours ce rapport entre le graphiste et le commanditaire, cette tension qui fait qu'on essaye toujours de se sentir le plus libre dans la contrainte. Mais est-ce que dans la création typographique, on est un peu plus libre ou pas?
Alors justement, ouais, en tant que graphiste, j'ai rencontré pas mal ce souci. Et j'ai l'impression que pour le moment, je ne sais pas si je dois le dire, je suis peut-être un peu superstitieux, que pour le moment, en tant que dessinateur de caractères, je n'ai pas eu vraiment ce souci. Je pense que c'est les typographies que j'ai dessinées précédemment qui font que les commanditaires qui viennent vers moi viennent plutôt pour m'encourager à faire ce que j'ai déjà fait. Et pour mon regard un peu particulier, ma façon de jouer avec la typo, plutôt que pour m'obliger à faire quelque chose qu'ils attendent avec... D'ailleurs, en général, ils savent pas ce qu'ils veulent exactement. Ils viennent souvent plutôt avec l'envie que je dessine une typo pour eux. Donc c'est pour ça que... Je ne devrais pas parler de ça parce que la prochaine commande, ça va me tomber dessus, ça va être quelqu'un de super chiant.
En fait, souvent, on te propose un peu carte blanche, quoi. On veut ta touche.
Ouais, pas tout à fait carte blanche. Il y a une discussion avant parce qu'il y a une attente de comment elle va être utilisée, de qui est le client. Est-ce que c'est un magazine? Parce que pas forcément, vous connaissez Keyblind. Ou est-ce que c'est autre chose? Et donc... Il y a une direction qui est imposée un peu par son utilisation, par le client, et puis par un échange de ce qu'il attend. Mais après, oui, pour le moment, je suis quand même assez libre et c'est assez confortable.
D'accord, donc pour toi, il n'y a pas vraiment de différence entre un travail de commande et un travail où tu vas faire une typo sortie?
Ben si, forcément, il va y avoir une différence quand même, puisqu'il y a une petite attente. Mais par contre, les deux sont agréables et je pense que le fait d'être de moins en moins graphiste et de plus en plus dessinateur de caractère et pendant un moment d'être un peu loin de la commande, c'est assez agréable finalement de revenir vers la commande et de se retrouver à nouveau un peu dans cet échange qui pour le moment est relativement libre. Donc en plus, j'aime beaucoup cette... et c'est pas la même chose puisqu'il y a cette attente. Quand je pars quand j'ai pas d'attente, en fait, je réponds, comme je disais tout à l'heure, à des frustrations ou à des dessins qui traînent quelque part. Là, en fait, je pars de rien du tout, ou en tout cas d'une attente qui vient pas de moi. Donc c'est un peu, ça peut être rafraîchissant aussi. Ça m'évite peut-être de tourner en boucle et puis de commencer à faire toujours la même chose, peut-être. J'en sais rien.
Est-ce qu'on peut parler aussi des workshops que vous organisez chez Velvetine? Donc régulièrement, je crois une fois par an, vous organisez un workshop. Quelle est l'idée derrière ces workshops? Qu'est-ce que vous en attendez?
Alors ces workshops sont issus de deux envies. La première envie, c'est l'envie de la collaboration. C'est-à-dire à la base, on voulait faire ensemble faire des marathons ou des sprints pendant lesquels on créerait des typographies ensemble. Et vu qu'on avait une deuxième envie qui sous-tend énormément VTF, qui est celle de faire de la pédagogie, on a de suite ouvert ces workshops aux autres. Et finalement, on les fait plus pour les autres que pour nous, mais ce n'est pas totalement vrai. Mais on participe en tout cas toujours à ces workshops en tant que créateur et aussi en tant que pédagogue. Et du coup, pour chaque workshop, maintenant, on essaie de trouver une nouvelle idée différente. On ne va jamais décliner, en tout cas, ce n'est pas notre, pas jusqu'alors, une idée de workshop qu'on a eue déjà. On ne va jamais refaire la même. On essaie de proposer des nouveaux concepts pédagogiques ou de créer des nouveaux objets. Alors, pour le petit rappel, le premier qu'on ait fait, c'était un sprint de création typographique assez classique, mais très technique, où on avait vraiment embrassé un processus de création entièrement libre. Du coup, ça avait été un vrai challenge et pour nous et pour les participants. Maintenant, on va plus sur des espèces de volonté de challenge en termes de création. On a fait l'avant-dernier, un workshop sur la dérivation, c'est-à-dire le processus de remix, ce qui s'appelle en langage libre le fork, c'est-à-dire de partir d'une création et de la modifier. Donc ça, on a fait un workshop dont on était assez content, qui ne partait que de cette... tout le monde partait de la même famille de caractères et derrière apportait sa modification, ce qui fait qu'à la fin, on avait une métafamille qui était de caractères qui étaient réunis par le point de départ, mais qui dérivait dans des
Il y avait comme une racine commune.
C'est ça. On a une des prochaines sorties sur le site qui est issue de ce workshop, a priori. Donc ça, déjà, en termes d'histoire, c'est une histoire cool. Et ce qui a amené un des participants du workshop à rejoindre VTF derrière. On a fait un workshop où on a créé une bibliothèque de pictogrammes, donc pas de la typo, des pictogrammes, qui représentaient des mots-clés dans le langage pornographique. Enfin voilà, à chaque fois on essaie de trouver des idées nouvelles, rafraîchissantes.
Et donc tu parles de notions pédagogiques, donc ça, ça passe par les workshops, mais est-ce que ça passe par d'autres aspects peut-être sur votre site web, le fait d'expliquer en détail ce que vous faites, de documenter votre pratique?
Ouais, c'est quand tu parlais du spécimen tout à l'heure. Nous, c'est vrai que comme on n'a pas de dimension commerciale, le spécimen ne sert pas tellement à vendre les typos, mais plutôt à expliquer peut-être aux gens de quelle manière ils vont pouvoir la modifier, par exemple, ou, puisque c'est permis par la licence, justement. Donc c'est peut-être par là aussi qu'on essaye d'amener un peu de pédagogie dans les spécimens de nos typographies.
Oui, puis on essaye aussi sur notre site d'expliquer vraiment notre démarche, ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est le libre. Et c'est vraiment quelque chose, un effort permanent, parce qu'il faut bien le dire que nous, ce qu'on préfère faire de base quand même, c'est dessiner des typos. Et faire une page dédiée pour expliquer qu'est-ce qu'une dérivation typographique, quels sont les droits des utilisateurs et tout, ça prend énormément de temps. Et du temps qu'on prend plutôt pour dessiner à la base. Du coup, on essaie de plus en plus de faire cet effort-là et on voit que ça paye. Par exemple, on a juste à un moment donné rajouté une mention disant aux gens de nous envoyer s'ils pouvaient les utilisations des typos et depuis, ils nous les envoient énormément. On fait des pages où on explique les droits des gens quant à nos typos et on voit que ça prend quoi. Quand on a mis juste une mention qui disait vous pouvez modifier nos typos, depuis ça prend beaucoup plus. Donc là, on sait qu'à chaque fois qu'on va faire une to-do, des choses qu'on doit expliquer. On sait derrière qu'a priori, ça va payer.
Est-ce que vous réfléchissez à une manière créative pour justement faire de la pédagogie, c'est-à-dire peut-être comment mettre en scène cet aspect pédagogique sur le site?
Déjà, c'est pas seulement sur notre site. On a fait des posters sur le libre. Jérémy en a fait un qui explique les droits et les devoirs des licences libres. Chaque fois qu'on fait un workshop, on essaie de faire dans la foulée une page de documentation claire qui explique les enjeux méthodologiques, parce qu'en fait notre expérience, notre expérimentation n'est pas seulement typographique mais aussi dans la méthodologie, c'est-à-dire comment on collabore, comment 30 personnes vont pouvoir modifier un caractère typographique. C'est un vrai challenge, les outils ne sont pas du tout faits pour ça, quoi. On doit se fixer des contraintes, inventer nos propres outils, donc là aussi la licence libre ça aide. Et tout ça, on l'explique. Du moins, on essaye. Mais après, se posent des questions de quel langage adopter. Parce que nous, comme tu l'as dit au début, on communique en anglais sur notre site par économie. Parce qu'en fait...
Vous n'avez pas les moyens de traduire en X langues.
C'est ça. Quand on écrit un truc, on écrit en anglais parce qu'on publie sur l'Internet. Et je suis sûr que si on regarde, notre public, il est principalement non francophone, en fait. C'est vraiment une des questions économiques. Après, on est toujours ouvert à plein de façons de faire cette pédagogie. Ça peut être des goodies, imprimer des paillassons, imprimer des montrer que la typographie, ça peut être partout aussi.
D'où vient l'idée du paillasson? Pourquoi un paillasson?
En fait, on voulait désacraliser un peu la typo et s'essuyer les pieds dessus. Je trouvais ça rigolo. Du coup, j'ai fait mon spécimen de terminal grotesque sur un paillasson. Je l'ai devant ma porte et chaque fois que je passe dessus, ça me fait vraiment beaucoup rire. Jamais un typographe d'il y a 20 ans aurait fait ça, quoi. C'est trop sacré, la typo. Donc voilà.
Moi, j'en veux un, en tout cas.
Ouais, mais voilà, c'est sur demande. Si vous en voulez un, vous nous envoyez un petit mail, un petit tweet et puis on en sortira d'autres.
Je dois mentionner à cette occasion le fait qu'il y a une nouvelle membre dans VTF depuis quelques mois qui s'appelle Manon et qui, elle, fait énormément preuve de pédagogie, notamment via une chaîne YouTube qui parle à chaque fois d'un caractère ou de caractères différents, dont j'ai oublié le nom. Donc,
voilà. Mais on s'arrangera pour le mettre en ligne d'une manière ou d'une autre, enfin, en tout cas moi. Et puis si tu te rappelles le nom avant la fin de l'émission, on le citera, d'accord ? Cette émission s'achève, donc merci à vous quatre. Donc il y avait Benoît Baudouin et Jérémy Land, Raphaël Bastide et Lucas Lebihan, donc de Velvetine. Bah, je rappelle les infos si on veut vous trouver sur internet, donc bb-bureau.fr, donc ça c'est le travail bébé comme Benoît Baudouin. Et velvetine.fr, alors velvetine c'est avec un Y, voilà. Donc là on peut voir vos typos, les télécharger, les acheter, etc. Voilà.
Je veux juste rajouter la chaîne YouTube qu'on ne trouvait pas tout à l'heure, s'appelle Attention ça glyphe.
Et donc podcast, réécoute, images, infos, lien sur asso-artichaut.blogspot.fr ou sur la page Studio Artichaut sur radiocampusparis.org. Donc merci à vous quatre d'abord et merci à Guillaume et Aurélie du Monte en l'air qui nous accueillent ici et merci donc à Mehdi, voilà, un gros merci puisqu'il a remplacé le technicien manquant et voilà, salut. Thank you.